Can we please get the...
Pouvons-nous commencer l'enregistrement? C'est bon?
D'accord.
Okay, we're gonna get,
Bien, nous allons commencer la session. Donc, c'est sur le nouveau processus d'élaboration de politique jeunesse sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Et je m'appelle Jeff Newman. Je suis le président de l'équipe de travail sur l'élaboration de politique et j'ai quelques membres ici. Donc, s'il y a des questions, si vous voulez poser des questions, ils pourront intervenir rapidement. Je ne suis que le président. Je représente neutralement les opinions et les discussions que nous avons eues, mais ces gars peuvent vous en dire davantage sur leur position personnelle sur quelques questions. Donc, l'objectif de notre équipe de travail, c'est que nous sommes chargés de concevoir un nouveau processus d'élaboration politique qui intègre la nouvelle approche de l'équipe de travail, plus responsable aux besoins à Cannes. Et la tâche principale que nous avons eue, c'est d'élaborer des procédures, des directives applicables à un nouveau processus PDP. Et lorsque ce PDP est élaboré, pour trouver un plan de transition et de mise en œuvre pour commencer à les intégrer directement dans le PDP dans la mesure possible ou les appliquer à de nouveaux que le Conseil GNSO a décidé d'introduire. Pour en dire davantage sur notre approche, cette équipe a été créée en février 2009 à la suite d'un rapport de la commission de gouvernance du board. On a publié un rapport initial en 2010, en mai, avec 45 recommandations et identifié des questions pendantes sur lesquelles on avait besoin de commentaires et maintenant on donne un peu l'aperçu du nouveau PDP. Et pour revenir un peu en arrière, le PDP est crucial pour de nombreuses raisons, surtout pour les parties contractuelles, les registres et les registraires. C'est que c'est un mécanisme selon lequel ils peuvent corriger, amender les accords pour forcer les registres et les registraires à faire certaines choses qui tombe dans le champ d'application de limiter des activités sans les processus de négociation bilatérale entre ICANN et les parties contractuelles. Donc, il y a beaucoup de questions par le passé qui ont été abordées par un processus de PDP et le EDRP à l'origine. On adore tous celui-là. Et récemment, ou les plus récents, le domaine testing et comment traiter l'effacement des noms de domaine. Et donc, cela nous touche tous. Et l'objectif, vraiment, c'est d'avoir un processus décisionnel éclairé pour s'assurer que tout ce qu'on trouve, toutes les politiques qui sont élaborées par le PDP sont réalisées avec un consentement éclairé. Donc, on a publié le rapport initial. On a analysé les commentaires. On a eu beaucoup de commentaires détaillés et astucieux. Et on a publié la version préliminaire du rapport final. On a inclus des changements proposés au statut ICANN, y compris de nouvelles formulations provisions pour le manuel de procédure PDP. On devrait tous éteindre mon téléphone, le téléphone comme le mien. Je m'excuse. Donc, pour un survol à haut niveau du nouveau PDP, nous avons abordé le travail en divisant le PDP en 5 étapes. Le premier était pour la planification et pour demander un rapport sur les problèmes. Et c'est vraiment ça lance la discussion au sein de la communauté GNSO pour qu'on puisse limiter les problèmes et trouver un champ d'application pour le nouveau PDP pour aborder la question du jour. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'un rapport est élaboré en version préliminaire, on peut décider si on va initier un PDP Et pour revenir un peu en arrière, il y a d'autres manières pour introduire le PDP directement, et ce serait par une requête directe du board pour introduire le processus, ou bien une requête d'un comité consultatif à l'AC ou du GAC, ou le Conseil consultatif de sécurité et stabilité pour introduire un rapport sur les problèmes pour lancer le processus. Une fois que le PDP est lancé, à ce moment-là, le modèle actuel est que les groupes de travail seront créés. Et ce que nous avons traité dans ce groupe, c'est que pas seulement la composition du groupe de travail, mais des choses comme la manière dont les groupes de travail sont créés, les chartes qui régulent les groupes de travail et les produits finaux des groupes de travail. Et ensuite, on a couvert, une fois que le groupe de travail a terminé son travail, le conseil ensuite obtiendra le produit du travail et il y a un vote qui a lieu et finalement, avec un peu de chance, une mise en œuvre. Et nous avons créé une cinquième étape du PDP qui n'a jamais existé, qui est pour revenir à la fois individuellement sur chaque PDP et d'examiner si cela a été efficace, est-ce que cela a vraiment traité, est-ce que solutionné, la solution a répondu au problème. Et le second volet est d'analyser le processus PDP dans son ensemble et voir s'il fonctionne, et sinon on a besoin de certaines modifications. C'est une nouvelle approche sur tout ceci, et parce qu'en raison du fait que c'est nouveau, tout ne sera pas réussi dès au premier cycle, et on doit s'assurer d'avoir un mécanisme d'examen pour s'assurer que les PDP abordent le problème de la manière souhaitée. Donc les recommandations, si on généralise, et bon, essayer de trouver dans quel cas ils tombent. Bon, vous avez des recommandations qui codifient des pratiques existantes et pour une raison ou une autre, n'ont jamais été codifiées auparavant. On avait également recommandé de nouvelles approches sur des choses que nous n'avons pas encore essayées, mais des choses qu'on pense qui déboucheront sur un processus PDP plus éclairé et davantage d'efficacité. On a recommandé des changements au statut et on a recommandé que certaines des choses qui sont actuellement dans le statut et qui sont difficilement codées, que ce soit mis dans un manuel. Si on met quelque chose qui est codé, c'est très difficile à les amender. Donc pour la partie signataire contractuelle, c'est très... Il y a des assurances puisque nos contrats peuvent être modifiés par ce processus et il y a une certaine prévisibilité autour qui en résultera. Donc, on sait qu'il faut avoir une certaine flexibilité. Donc, voilà le genre type de choses qu'on a recommandées, en tout cas dans le rapport final, qui ont été à inclure dans le manuel de procédure. Donc, c'est une des questions qu'on soumet aux commentaires. Est-ce qu'on a réussi cela ou d'autres choses qui devraient être dans les statuts qu'on a mis dans le manuel ou à l'inverse. Donc, on a besoin de ce type de flexibilité et quels domaines n'ont pas besoin de cette flexibilité. Donc, voilà ce qui est soumis aux commentaires. Je vais à la prochaine diapositive. Les recommandations clés pour chaque phase, pour le rapport sur les problèmes auparavant. C'était un processus ad hoc. Le conseil GNSO se rassemblait et avec un seuil très... les critères sont très faciles à satisfaire. Et on décide si c'est quelque chose pour l'UDRP. Donc, les critères sont faciles à satisfaire pour pouvoir initier le processus formel. Donc, une des choses que nous vous avons voulu faire, c'est d'avoir un modèle pour organiser cela et pour s'assurer. Et voici le type d'information qu'on a besoin, ou le conseil pense qu'il a besoin pour pouvoir introduire le processus de PDP et de rapport sur les problèmes. Ce qu'on n'a pas fait auparavant, c'est avant, lorsqu'il y avait un rapport sur les problèmes, c'était élaboré par le personnel et Erika en fait partie. Ils vont dans leur silo, ils écrivent ce rapport et ils l'envoient au conseil. Et ensuite, le conseil décide s'il va introduire le PDP. Le problème, c'est que certains problèmes sont de grande portée et des fois, il n'y a pas beaucoup de bonnes directives sur le conseil pour savoir quel problème devrait être abordé. Donc, le personnel, souvent, a des difficultés à le faire. Par exemple, si vous dites, on veut... un rapport sur les problèmes sur les UDRP et ça semble simple, mais pour donner une tâche au personnel de réexaminer l'UDRP, c'est plutôt impressionnant comme c'est une montagne de travail. Donc, soit on veut avoir des ateliers de travail ou des séminaires ou d'autres types de sessions pour obtenir des informations pour qu'on puisse limiter le rapport sur la question et le rapport pour s'assurer ou obtenir les commentaires de la communauté pour savoir si on a bien réussi la tâche. Donc, est-ce que là, c'est vraiment ce que la communauté voulait? Est-ce que c'est trop large? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire dans un délai raisonnable? Donc, voici le type de choses que nous avons abordées dans notre rapport final. Et l'une des choses qui, pour ceux qui sont participent à ceci depuis longtemps, il y a des délais très stricts dans les statuts quant à tout cela doit se réaliser. Donc aujourd'hui, dans les statuts, si on dit au personnel ICANN ou au conseil, le conseil GNSO dit on a besoin de rapports sur les questions, les problèmes sur les UDAP, ils ont 15 jours pour le faire. Vous imaginez, ce n'est pas une tâche très simple. Donc, on a introduit davantage d'inflexibilité dans ce processus. Donc, c'est plus raisonnable pour le personnel. On a davantage de commentaires de la communauté. Et lorsqu'on arrive au PDP formel, on le fait de manière éclairée en sachant les tâches à accomplir. Donc, pour l'introduction de PDP, certaines des recommandations clés que nous avons, c'était d'abord d'exiger une charte pour le groupe de travail. Ça peut sembler assez évident que tous les groupes de travail créés ont une charte qui gouverne, régule la portée, mais ce n'a jamais été codifié. Et quelques jours auparavant, les groupes de travail n'avaient pas de charte. Ils avaient des instructions peut-être du conseil, mais aucune charte. Donc, c'est quelque chose que nous demandons avec quelques éléments que nous recommandons à être intégrés dans la charte, avec la flexibilité, tout en reconnaissant que chaque question peut être différente. On a introduit le concept d'avoir un dialogue entre le conseil et le AC, et surtout quand c'est le AC qui introduit le rapport. Donc, le conseil at large avait recommandé demander un rapport sur les problèmes sur le domaine testing, et c'était une recommandation très utile, et nous avons introduit le PDP immédiatement. Donc même si ce n'a pas été souvent utilisé, c'est quelque chose, ce n'a été utilisé par ELAC, donc on n'a jamais eu de rapport ou le conseil sur le serveur de racine, mais il y a un mécanisme qui est intégré dans le processus pour qu'il le fasse. Il y a une option pour que le conseil rejette un rapport sur les problèmes, ou plutôt ne pas introduire un PDP, même si cela est demandé par un conseil consultatif. Donc, on introduit un concept qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre le GNSO et le conseil consultatif, si tel est le cas. On a également fait plusieurs choses avec les périodes de commentaires publics dans le rapport final, tout est détaillé dans l'objectif afin d'avoir les commentaires publics nécessaires, mais pas de en ralentissant tout ou ni en réduisant la possibilité des commentaires publics. Une des sujets de controverse les plus épineux, c'est la notion de ce qui est dans le champ d'application pour un PDP. Quelques années auparavant, il y avait plusieurs sujets, thèmes qui ont été introduits, et certains avaient dit qu'on ne peut pas faire un PDP là-dessus parce que c'est en dehors du champ d'application, et c'est dans les statuts. Il y a une différence si quelque chose est dans le champ d'application. Alors, il y a un critère qui doit être satisfait pour introduire le PDP. Le critère est plus difficile à satisfaire s'il y a le champ d'application est plus large. Donc, il y a un débat entre les parties signataires et les parties non contractuelles pour savoir qu'est-ce que ça signifie et tomber dans le champ d'application. Et le rapport final du groupe de travail dit que dans le champ d'application, ça veut dire que c'est dans le champ d'application de GNSO et d'ICANN, mais pas forcément des parties contractuelles. Ça signifie que dans le contrat, parties contractuelles, il y a un petit groupe de politiques qu'on appelle politique de consensuelle, disant que certaines politiques peuvent être imposées au registre et au registraire, mais il y a tout un groupe de politiques en dehors de la zone réservée qui peut être abordée par un PDP, mais ce n'est pas forcément un engagement contractuel. Ça peut être les meilleures pratiques, les recommandations au personnel ICANN, ça peut être un nouveau processus GTLD, ça peut être toute une série d'informations qui n'ont rien à voir avec ce qui est imposé aux parties contractantes. Nous avons fixé des recommandations pour les groupes de travail, des modifications au délai. Nous assurons qu'auparavant, il y avait un débat quant à si les groupes de travail travaillent sur les politiques, mais également sur la mise en œuvre. Par exemple, dans le domaine testing, il y avait des politiques qui sont sorties, qui parlaient des choses qui auraient dû se passer ou pas. Et lorsque on a dû les mettre en œuvre, la question est survenue, et c'est que est-ce que c'est quelque chose qui pouvait être abordé par que les groupes de travail ou les groupes de parties prenantes devraient faire, ou bien c'est plutôt le personnel de ICANN ou les parties contractantes auraient dû faire. On a recommandé, en fin de compte, que parce que les groupes de travail, groupes d'aussi en collaboration si étroite avec les là-dessus, c'est peut-être pas obligatoire, peut-être d'avoir les commentaires des groupes de travail sur les questions de mise en œuvre pour orienter le personnel. Ce n'est pas tout ou rien. C'est pas que le personnel d'ICANN doit prendre la recommandation ou le board doit prendre la recommandation, mais c'est une bonne orientation pour le travail à l'avenir. Et finalement, une des choses pour le groupe de travail qu'on a ici, on permet, et ça semble un peu bête, mais c'est arrivé plus une ou deux fois où il n'y avait pas de mécanisme de statut pour arrêter un PDP une fois qu'il a été initié. Donc, vous mettez le train sur les chemins de fer et on ne peut pas l'arrêter. Donc, il y a beaucoup de PDP par le passé où les gens ont perdu tout intérêt à la question. Le problème s'est résolu par lui-même après quelques années, ou c'est quelque chose qui a été dépassé par les événements. Donc, on a intégré un mécanisme pour ceci, on a décidé de ne pas recommander aucun changement dans la structure des statuts avec ou bicaméral et entre parties contractuelles et parties non contractuelles, mais on a ajouté des critères, des seuils avec les PDP qui manquaient auparavant. Et nous avons de nouvelles procédures pour la livraison des recommandations au board. Donc, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous pouvez savoir que lorsqu'il y a un rapport final, lorsque le Conseil GNSO approuve une politique pour l'envoyer au board et par le passé, mais lorsque ce rapport va au board, le personnel s'auto-saisit pour envoyer la version préliminaire au board pour souligner les points clés, montrer les divergences dans l'opinion des parties prenantes ou des groupes constitutifs. Ce rapport n'a jamais été vu par le groupe travail qui a travaillé là-dessus ou qui a le conseil qui a approuvé pour qu'on l'envoie au board. Et c'est un problème parce que dans les groupes de travail, on n'est pas sûr de ce que le board voit. On ne sait pas si le personnel a bien compris. On aime le personnel et ils sont très compétents et souvent ils font les choses très bien, mais la communauté a besoin de peu de transparence et de responsabilisation par rapport à ce qui est soumis au board. Et l'une des recommandations les plus importantes, c'est que tous les résumés au board doivent être élaborés, soit par le conseil, soit par le groupe de travail qui travaillait sur la question. Et cela limite le traitement confidentiel de tout ce qui est envoyé au board seulement à ces questions qui sont réputées être confidentielles ou soumises à des communications par le département juridique au board. Mais tout ce que le reste, la communauté a le droit de savoir ce qui va au board pour s'assurer que le board dispose de tout ce qu'il a besoin pour faire un consentement éclairé. Donc, c'est un grand changement par rapport à ce qui se sont déroulés jusqu'à présent. Et on pense que c'est en ligne avec les recommandations de l'équipe de révision de la redevabilité et de la transparence. Et je pense que c'est important pour qu'ICANN mette cela en œuvre. Et comme je dis auparavant, il y a des recommandations portant sur l'examen d'un PDP individuel et l'ensemble du PDP. Une fois la politique introduite, il y a quelques questions qu'on voulait soumettre au public et quelques membres peuvent exprimer certaines de leurs opinions sur ces questions. Nous n'avons pas finalisé cela dans le rapport, mais on espère obtenir vos commentaires. Et ce sont les gens, de choses, qu'est-ce qui devrait être dans les statuts, qu'est-ce qui devrait être dans le manuel PDP lui-même. Donc, encore une fois, c'est le problème de la flexibilité de perception. Perception étant quelque chose dans les statuts, on perçoit. Il est important pour la communauté que la communauté ait une bonne perception, alors que bien que le conseil ait le dernier mot à dire, c'est seulement si ICANN trouve un problème, le board trouve qu'ils vont intervenir, alors que dans les statuts, cela doit être approuvé par un certain pourcentage du conseil exécutif. Donc, voilà la question. Actuellement, maintenant, pour les commentaires au public, la période est close le 1er avril. On aimerait que tout le monde commente, tous ceux qui sont intéressés commentent. Et est-ce que j'ai dit, bien sûr, que le conseil consultatif at large également pourrait intervenir? Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus.
Now, this is kind of esoteric.
Bien, je vais passer au prochain point dans les statuts. C'est une question importante pour les parties contractantes qui a été discutée. Et donc, ce qui est écrit sur l'écran, c'est la clarification. Et vous avez accès aux statuts avec un simple clic, donc c'est facile, pas de problème. Donc, cette résolution dit que, si j'en reviens un petit peu en arrière, lorsque le Conseil a proposé des politiques au board et qu'il approuve un rapport final, si le Conseil approuve cela avec une super majorité, le board est limité dans ses actions. Il peut accepter le rapport et la recommandation, il peut rejeter la recommandation seulement si le board a les deux tiers du board peuvent rejeter une recommandation de ce conseil. Et ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas la mort de la recommandation, mais elle va être renvoyée au conseil pour qu'il puisse essayer de résoudre les problèmes. De toute façon, cette résolution est étrange parce qu'elle n'a jamais été évoquée auparavant, mais elle peut avoir un impact potentiel sur les registraires et sur les registres et sur le reste de la communauté. Il est clair que cette super majorité du conseil peut aller jusqu'au board. Le board a des droits et des obligations et des responsabilités, mais dans tous les cas, lorsque le conseil ne peut pas atteindre cette super majorité, le vote majoritaire du board sera suffisant pour agir. Par conséquent, cela signifie que cela n'a jamais été essayé auparavant parce que les choses ne sont jamais arrivées jusqu'au board avec seulement une majorité du conseil qui a eu un impact. Et quel est l'impact de cela? Le registre et le registraire ont des contrats. Le contrat stipule qu'il y a certaines choses, des politiques de consensus, chapitre P, chapitre C, et cela peut être utilisé pour modifier le contrat, notamment lorsque le registraire et le registre disent quelles que soient les modifications que l'on veut faire dans le contrat, il faut obéir ces points-là. C'est assez étonnant lorsqu'on fait un contrat de laisser cela ouvert pour que les personnes qui sont à l'extérieur de notre contrat puissent amender ce contrat, modifier ce contrat. Est-ce que cela signifie que si le conseil ne parvient pas à cette super majorité? Oui, parce qu'il peut y avoir une minorité. La majorité du board est suffisante pour agir. Est-ce que cela signifie que le board peut forcer les registres et les registraires à adopter cette politique même s'il n'y a pas une super majorité au niveau du conseil? Certains disent que oui, c'est ce que cela signifie. Les registres et les registraires considèrent le contraire. Ils disent non, comment est-ce que, à l'exception d'une super majorité du conseil, comment est-ce qu'on peut considérer quelque chose comme un consensus? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut amender notre accord? C'est une question très controversielle. pour une série de personnes dans la communauté. Et nous avons la chance que ce type de situation n'arrive jamais. Mais si cette situation atteint le board et le problème de la supermajorité de la communauté ou du conseil qui va voter pour, le board peut toujours amender cet accord du registraire et du registre. Voilà, je crois que je vais maintenant laisser la parole aux personnes du conseil ou du groupe de travail, de l'équipe de travail ou des personnes de la salle qui veulent donner leur opinion sur ces questions-là. Et je pense que ce serait intéressant, en tout cas, si quelqu'un a quelque chose à dire, approchez-vous du micro et allez-y. Alec, Wolf, Paul, Tatiana, vous avez quelque chose à dire? Bien. C'est un sujet controversial. Les personnes ne veulent parler. Lorsque j'ai besoin d'un commentaire, je sais que je peux compter sur Avery. Merci. Avery Doria, toujours prête pour parler des sujets controversés ou des controverses. J'ai toujours pensé que l'interprétation était assez claire et que cela signifie que l'on peut envoyer cela au board et que le board peut agir. Que le PDP soit lié à quelque chose qui soit à l'extérieur ou à l'intérieur de son terrain. Je pense que le PDP qui est lié à l'extérieur de son terrain, il n'y a pas de doute. Et je pense que ici, la seule question qui peut surgir serait des questions liées aux questions contractuelles. Donc, de nouveau, on fait une différenciation entre que les statuts ne font pas. Les statuts peuvent agir, les PDP proviennent de l'intérieur et de l'extérieur de leur terrain d'action. Et donc, puisqu'ils peuvent agir, puisqu'il n'y a pas de différenciation entre l'intérieur et l'extérieur, je laisse l'interprétation. Je pense que l'interprétation doit être que ICANN doit approuver par vote et par majorité. Et s'il le fait, il le fait par supermajorité du GNSO. Et cette supermajorité du GNSO et la minorité du board peuvent approuver les recommandations du GNSO. Si cela est envoyé à une supermajorité, il faut que leur propre majorité l'accepte, l'approuve. Et donc, il n'y a pas de différence dans ce processus. C'est une question, c'est une controverse. Oui, tout à fait, je le sais. Bien, ça c'est votre opinion. Bien, James. James Bailem, du registraire de GNSO et membre de ce groupe de travail. Et je pense que c'est une question très intéressante. Comme cela vient d'être dit, c'est un domaine très controversé et je pense qu'il faut considérer la possibilité de, lorsque on a des politiques de consensus, il faut continuer à avancer et sans plus de discussion. Tout à l'heure, lorsque j'étais en route pour cette réunion, il y a un papier qui a été publié par les équipes d'ICANN en réponse à une question. Et je voudrais savoir si, Jeff, est-ce que c'est approprié? Est-ce que vous avez d'autres diapos? Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions ou votre opinion sur ce point? Parce qu'il pourrait y avoir une troisième position sur cette question. C'est amusant parce que, justement, il y a Margine Mylan qui est ici, qui peut justement aborder cette question. Je pense que c'est intéressant que toutes les personnes qui sont responsables dans ce domaine sont ici, sont présentes. Et donc, je vais vraiment remercier les personnes qui sont venues ici parler de politique, de PDP. Oui, nous avons écrit 3 pages sur ce thème. C'est difficile à résumer en quelques minutes, mais je dirais que l'essentiel, c'est que lorsque on regarde les politiques de consensus, on regarde les statuts et le contrat. Le statut ne va pas changer. Il y a un contrat. Il faut être en accord avec les deux. Il faut regarder le statut, le contrat et il doit y avoir, il y a des différences de définition de politique de consensus dans les deux contrats, dans les contrats en général. Et donc, Avery a raison lorsqu'on dit que le board peut agir. Cela est lié au fait que n'importe quoi peut être présenté par le PDP et à travers ce processus de PDP. Et autre chose ici que je voudrais dire pour les membres, c'est difficile à résumer, mais je sais que ça a été publié sur une liste pour l'équipe de travail. Et il faut lire cette section en rapport avec le contexte. Et on parle ici, lorsqu'on lit cela dans un contexte, voici la façon dont nous considérons cela. Il faut... Lorsqu'on parle de ce que fait le board lorsqu'il a une recommandation du conseil du GNSO, lorsqu'il reçoit cette recommandation, tout dépend du vote, ce qu'il a été au niveau du conseil, et donc la façon dont cela est considéré. S'il y a un vote supermajoritaire, il y a un seuil qui est plus élevé et que le board doit approuver. Et si... cela va contre la recommandation. Hein. S'il y a une supermajorité, s'il n'y a pas de supermajorité à ce moment-là, si on va approuver cette recommandation du Conseil de GNSO et qu'il n'y a pas de supermajorité, on n'a pas besoin d'un seuil supérieur pour aller à l'encontre de ces recommandations du Conseil de GNSO. C'est ce que, en tout cas, moi, je comprends lorsque j'analyse la question. Et donc, c'est vrai qu'il faut des éclaircissements sur la façon dont cela peut être lu. C'est très large. La façon dont c'est rédigé est très large et ce n'est pas très clair. Hein, donc, la façon dont ça a été rédigé n'est pas très claire. C'est une question de formulation qui doit être éclaircie, à mon avis, en ce qui concerne en tout cas le seuil. Merci, Margie. Et je voudrais rajouter que dans l'accord des nouveaux GTLD, dans certains accords existants, il y a des différences. Ils sont différents, hein, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, mais je sais qu'il est intéressant de voir que les politiques de consensus sont les politiques qui sont établies en fonction des statuts. Hein, c'est très important. Donc, si on a les statuts qui disent que... si les statuts ne sont pas très clairs dans ce domaine-là et qu'on a un accord qui est basé sur les statuts et qui sont clairs, à ce moment-là, on pourrait, en théorie, hein, sans avoir besoin d'éclaircir cela, on pourrait faire une interprétation selon laquelle on n'a pas besoin d'une supermajorité du Conseil. Et si les gens se rendent compte que... Hein, je prends mon registraire ici dans le cas de mon registraire, c'est pour le point de vue d'un registraire ou d'un registre, c'est très compliqué signer un contrat qui peut être amendé, être modifié par la communauté, ça fait peur. Hein, il y a des opérations qui demandent une certaine prévisibilité pour signer un contrat. Donc signer un accord qui il faut un consensus au niveau de la communauté, cela est mesuré par une supermajorité du GNSO. Si on n'a même pas besoin de ça, à ce moment-là, on a moins de prévisibilité, de stabilité, de sécurité. Et ceux qui opèrent des nouveaux GTLD, ils ont besoin d'être sûrs de ces résolutions. Parce que quand on rentre dans ces accords peuvent être modifiés. On ne sait jamais comment ça peut affecter votre business, votre fonctionnement. Et on voit maintenant qu'il y a des conflits qui existent entre les opérations de registre. Hein. Si on regarde le site d'ICANN, vous les trouvez. Vous trouvez qu'il y a des litiges qui existent concernant la capacité de ICANN de réguler, justement. Donc, si on regarde les opinions de chacun, de chaque partie, je pense qu'il y a des obligations de la part des équipes de travail. Lorsqu'on envoie cela au conseil, il faut éclaircir ce point-là. Et je pense qu'on voit cela dans le mémorandum. Il y a des points qui doivent être éclaircis. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Bien, Avri, merci. Je voulais faire un commentaire sur deux points. La première chose, comme vous l'avez dit, je voudrais le préciser à nouveau, cela n'est pas ambigu à mon avis. Si je prends le fait qu'il y a quelque chose de spécifique dans votre contrat qui dit que les politiques de consensus en relation avec vous signifient deux tiers des GNSO, cela va donc être une condition prévalente qu'il faut assumer. Mais s'il est dit qu'il faut qu'il y ait une politique de consensus, cela défend le fait que la politique de consensus n'est pas seulement une supermajorité du GNSO, mais aussi la combinaison du GNSO, de la supermajorité, de la majorité et du board. Et les prérequis du board pour approuver ou ne pas approuver cette question. Ce sont ces deux choses en même temps, ces deux facteurs, hein, et c'est donc une condition binaire, hein, pour définir les politiques de consensus. C'est ou la supermajorité du GNSO lorsque le board n'a pas une supermajorité, ou c'est une majorité du GNSO lorsqu'il y a au moins une majorité du board qui soutient cette décision. C'est un cas binaire ici. Ce n'est pas une affaire seulement simple. Il faut qu'il y ait quelque chose, un système binaire. À moins que le contrat dise non, dans notre cas, c'est seulement le GNSO qui va déterminer le consensus de la communauté. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point? Mary, est-ce que vous pouvez... Mary Wan, est-ce que vous pouvez... Vous voulez prendre la parole? Oui, je suis ici seulement pour dire une petite chose. J'ai réfléchi à cette question et je pense que vous avez raison. C'est assez compliqué et je pense que beaucoup de membres dans la communauté se sont intéressés à cela, se sont perdus dans les détails et n'ont même pas réfléchi à ce point. Mais en même temps, je pense que c'est quand même important. Donc, il y a quelques points ici. Le premier, je pense qu'il faut rappeler le fait que le processus du PDP peut inclure des choses qui sont des politiques de consensus et des choses qui ne sont pas des politiques de consensus. On a un seuil, on a des statuts, différents votes de supermajorité, etc. Et donc, en ce qui concerne les recommandations du PDP, les devoirs contractantes, des parties contractantes, ce sont des prérequis spécifiques et qui sont inclus dans cette supermajorité. Donc, vu la complexité, je pense que en partant de ce point de vue, il faut voir tout cela dans un contexte. Les autres contextes, et là je voudrais reprendre un petit peu les statuts parce que c'est important et c'est difficile. Quand on parle des deux tiers, c'est-à-dire une sous-section dont vous avez parlé, Jeff, ici, lorsqu'on dit que le board peut agir, lorsque je conteste, je vois ce contexte. Texte et qu'on parle de 13B, de 13C, 13B, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un vote de supermajoritaire du GNSO. À ce moment-là, on va adopter la politique. Et 13C dit que... Non, excusez-moi. Oui, 13C dit que si le board détermine de voter, de refuser ce vote supermajoritaire, il doit se baser sur des raisons. Ici, le point clé, c'est le 13C au cas où le board déterminerait de ne pas agir. Donc, je pense que votre question concernant le 13F doit être analysée dans ce contexte. Le mot agir apparaît aussi dans le 13C. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une interprétation plus large qui est meilleure, mais peut-être que la suggestion serait que c'est une question. On nous demande si on veut engager une discussion avec le board et peut-être que des membres du board ont leur propre compréhension à ce propos avant de continuer. Est-ce que je peux faire un commentaire de plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire sur le point 13F? Bien, allez-y alors. Cela est lié à la recommandation que vous avez mentionnée concernant les proposition que l'équipe de PDP peut analyser, ça inclut les meilleures pratiques, etc. Et je pense que ce commentaire n'est pas seulement pour l'équipe. L'équipe fait du très bon travail et réunir cette équipe, ça a été difficile et vous avez fait du bon travail, c'est beaucoup plus clair. Mais c'est aussi pour le reste de la communauté, pour ceux qui participent dans différents groupes, équipes. Il y a des époques lorsque on parle avec les nouveaux venus dans ces groupes et dans ACAN qui sont volontaires pour faire ce travail. Il est important de leur expliquer quel est notre travail et de comprendre le manuel, de savoir quels sont les différents types de résultats potentiels que cela peut donner. Je serai très reconnaissante s'il y a des membres de la communauté qui veulent former ce groupe. Je pense que nous allons avoir davantage de détails sur le rapport préliminaire. Si vous voulez, on peut représenter cela à nouveau parce que c'est une bonne suggestion. Bien, est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Oui, un autre problème. Et on a parlé de la transition de ce nouveau processus. On a plusieurs PDP en cours et donc on doit voir comment tirer parti de ces nouveaux rôles et les appliquer au nouveau processus pour être sûr que ces recommandations soient appliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que les recommandations ne concernent pas la structure des PDP, le vote du PDP. Nous ne sommes pas en train de franchir ce seuil. Le PDP qui a commencé il y a 6 mois, il y a un certain pourcentage de votes et qui la valide. Non, nous n'avons pas ce type de changement. La plupart des changements sont des changements utiles pour assurer que il y a des prises de décision informées basées sur les meilleures pratiques. Comment s'assurer, par exemple, que le groupe a les outils nécessaires pour faire, pour appliquer une bonne politique, une politique correcte. Voilà. Et par conséquent, nous avons, s'il vous plaît, allez-y, si vous avez une question, vous pouvez le faire. C'est intéressant de recevoir vos commentaires. Je suis Anne Eggman, je suis un membre du groupe de propriété intellectuelle, mais je ne parle pas en leur nom et je comprends que nous sommes dans un processus de révision. Je vous félicite pour votre travail. C'est vraiment un gros travail que vous avez fait et les observations sont importantes. C'est un sujet très important et je pense que la salle est vide parce que ça correspond à l'heure du déjeuner, mais vraiment ce que vous faites, c'est très intéressant. Je ne veux pas faire de commentaires très important. Ce que je voulais dire, c'était commenter quelques petits points, éclaircir quelques points pour les nouveaux arrivants dans ce processus. Lorsque vous faites votre rapport final, l'autre jour, Jeff, je suis tombée sur ce graphique. Un graphique, et pour le mettre dans le manuel PDP, je le recommande parce que je pense que c'est quelque chose de très utile et je me demande si lorsque l'on délivre un rapport final, on peut avoir une série de zones au début, une des zones est liée à cette question dont on a parlé aujourd'hui au début de la réunion, cette analyse donc qui concerne donc ce qui est à notre portée et l'analyse d'impact, l'analyse d'impact optionnelle. Je pense qu'il serait utile pour nous pour comprendre la valeur de ce processus aussi. Et je pense que ce tableau est utile parce qu'on le voit clairement sur le tableau. Lorsque vous parlez dans votre recommandation, certaines de ces recommandations affectent les statuts, d'autres affectent les règlements d'opération du GNSO et d'autres affectent les manuels du PDP en lui-même. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir, je ne sais pas si c'est trop de travail pour vous, mais je pense que ce serait très bien d'avoir des recommandations et rédiger, savoir quelles sont les parties affectées. Je sais que vous avez beaucoup de recommandations, mais je vois que votre groupe de travail connaît bien tout ce domaine et je pense que vous pourriez peut-être nous aider et le faire rapidement. Et à nouveau, pour les nouveaux arrivants, comme moi-même, je pense qu'il serait très utile pour chacune de ces recommandations d'identifier les domaines, par exemple, avec des titres, recommandation 1, recommandation 2, comme ça, je peux voir clairement chaque point et chaque rapport de problème qui a été fait, les initiations des PDP qui ont été faites, les demandes de rapports sur les problèmes, et le lancement de PDP ou la mise en œuvre d'un PDP. C'est donc que je pense que ça pourrait nous aider pour considérer ces recommandations. Si chacune de ces recommandations avait un petit titre, cela nous aiderait, ça serait utile. À nouveau, je ne fais pas de commentaires en ce qui concerne la substance pour le moment parce que les IPC en général sont longs. Je suis encore en train de les lire. Et donc, je suis un petit peu nouvelle, mais bon, je voulais vous faire cette remarque. Nous apprécions votre commentaire. Je pense que c'est très utile qu'il y ait. Et c'est vrai que notre équipe de travail a travaillé dans ce domaine depuis tant de temps que nous n'avons pas la perspective des nouveaux arrivants. Alec, peut-être, en tient un petit peu plus compte, mais il est là avec nous depuis longtemps aussi. Donc, vraiment, j'apprécie ces commentaires. Je pense que c'est très utile. Vous avez des bonnes idées. Et nous allons essayer d'appliquer ces recommandations et de mettre un titre à chaque recommandation et de voir si elle correspond au manuel ou au statut. L'impact dont vous parlez couvre essentiellement le travail fait avant le lancement du PDP, pendant la phase de rapport, un groupe demandait que l'analyse d'impact soit réalisée sur le problème pour voir quels groupes vont à être influencés ou vont avoir un impact. Et donc, les rapports de problèmes sur les IDRP, sur les UDRP, on peut recommander une analyse d'impact sur les fournisseurs d'UDRP, ce qui peut-être va donner lieu à des changements, qu'est-ce qui va affecter les propriétaires et quel va être l'impact sur le registraire, sur les registres, par exemple. Et donc, pour les commentaires, lorsque nous décrivons l'analyse de l'impact, nous essayons de les lier à l'affirmation. Voir cela est lié au problème, va avoir un impact sur la stabilité, la sécurité, cela va avoir un impact sur l'intérêt et les intérêts dans le domaine des propriétaires. Et puis, nous essayons de faire des commentaires. Nous essayons de voir si c'est ICANN qui doit analyser l'impact. Nous pensons que c'est ICANN qui doit analyser l'impact sur les droits de l'homme. Donc, le groupe ne va pas inclure cet aspect comme recommandation, mais une minorité du groupe va peut-être recommander que cette analyse soit aussi disponible si cela est approprié. Donc, voilà. Et je prends note de votre commentaire concernant le graphique. Je pense que c'est quelque chose que nous voudrions faire aussi. Nous pensons qu'il peut y avoir une série, différents types de graphiques avec une vision générale et quelque chose qui permet d'avoir une analyse d'ensemble des impacts en général. Oui, ce serait très bien, essentiellement en termes de... Et la vision générale, et des fois nous ne connaissons pas les procédures, les recommandations, le manuel de PDP, donc je pense que ce serait très intéressant et je suis très intéressée aussi par l'analyse des impacts. Je ne fais pas de commentaires pour le moment et les recommandations personnellement. Et je l'ai fait en mon propre nom, mais je pense qu'on peut peut-être mettre l'accent sur la clarté, que de nouveaux volontaires essayent de travailler sur ces processus qui sont très importants. Et je vous remercie pour le travail et votre volonté d'améliorer ce processus. C'était un effort très important et je vous en remercie. Merci.
Puis-je ? Ce n'est pas trop tard ? Merci. Carlos Aguirre, nominé NOMCOM du Conseil Genesio. Maintenant, je vais parler de mon incapacité personnelle. Hier, j'ai eu la possibilité de me promener et de quitter un peu cet hôtel. Je ne m'inquiétais pas au sujet des PDP, mais la question est la suivante. En tant que groupe de travail, est-ce que vous imaginez comment rendre la participation du public plus réelle pendant une période de commentaires publics? Est-ce que vous pensez que l'extension à 45 jours est une possibilité pour améliorer la participation du public et les commentaires publics? Et dernière question. J'ai vu que la période de commentaires pour l'introduction de PDP est facultative. Ai-je tort? La recommandation est celle-ci? Elle dit bien la même cette chose? Oui, mais il y a une période de commentaires publics pendant la phase de rapport sur les problèmes. Donc, il y a un rapport préliminaire. Ensuite, il y a une période de commentaires publics. Ensuite, il y a un rapport final qui est publié. À ce moment-là, le Conseil va décider. Et d'introduire le PDP. On a pensé que le fait d'avoir une autre période de commentaires publics à ce moment serait trop rapproché, ces périodes seraient trop rapprochées les unes des autres. Donc, le groupe de travail a la possibilité d'introduire de nouvelles procédures de commentaires publics pour des commentaires spécifiques qui en résultent. Alors que maintenant, si un PDP est introduit, il y a une période de commentaires publics très vaste, très générale, qui dit il y a un nouveau groupe de travail sur le domaine tasting. Veuillez soumettre vos commentaires. Donc, maintenant, on a la flexibilité de créer le groupe de travail et ensuite, ils peuvent réfléchir sur la question eux-mêmes. Voici la série de questions qu'on aimerait bien solutionner. Donc, au lieu d'avoir un message général, et on a des positions très générales. On aimerait collecter certains faits, collecter certaines informations. Donc, peut-être qu'on devrait améliorer notre travail là-dessus. Peut-être que ce n'est pas de dire qu'on ne veut pas de commentaires publics, mais on veut une période de commentaires publics plus structurée qui aborde les questions plutôt que d'une qui serait déclenchée automatiquement. Par exemple, pour le domaine tasting, lorsque cela a été lancé, il y a une position générale disant qu'on n'aime pas le domaine tasting. On trouve que ça devrait s'arrêter. D'accord, on le savait déjà. C'est pourquoi on a initié le PDP. Mais ça aurait été peut-être mieux de dire question. Pouvez-vous nous donner des preuves du domaine tasting? Comment est-ce que vous avez trouvé ces preuves? La question au registre. Quelles informations pouvez-vous fournir au groupe de travail pour soutenir le domaine tasting? Et pour les détenteurs de droits de la propriété intellectuelle, est-ce que vous voyez qu'il y a beaucoup de noms de domaines qui sont goûtés et qui touche au droit de marque? Donc, cela aurait pu permettre d'avoir des résultats de politique bien plus rapides. C'est ce que j'essaie de dire. Si quelqu'un veut intervenir? Oui, Alex, merci. Le fait d'être nouveau venu à Cannes, c'est pas seulement au sein du PDP, mais c'est partout, c'est intéressant. Et on a ajouté le problème des acronymes et des abréviations qui devient problème mythique. Donc, ce qu'on a fait à Cartagena, ils ont développé un tableau qui, pour faciliter, avec un organigramme, pour voir comment les choses se déroulent. Donc, c'est peut-être ce qui devrait être peaufiné pour que cela soit plus facile pour inclure des nouveaux processus qu'on recommande maintenant. Je suis un nouveau venu, moi, mais je suis ici depuis octobre 2009. Donc, j'imagine que si quelqu'un vienne au cours de cette année, que ça doit être très compliqué pour eux. Mais je voulais répondre à la question de Carlos pour comment faciliter les choses. Peut-être qu'on devrait avoir une version abrégée de ce qui se passe, donc les gens pourraient comprendre. Et ceux qui veulent davantage de détails peuvent consulter le grand rapport avec les tableaux. Et s'ils ont une question d'intérêt, ils peuvent donc approfondir la question. Et pour Jeff parle comment améliorer la participation du public. Ce qu'on essaie d'avoir, c'est d'avoir davantage de flexibilité. On ne veut pas bloquer les commentaires parce que la procédure actuelle est tellement fixe. Maintenant, on veut que si on pense que le groupe a besoin, on donne davantage de temps pour que les commentaires viennent à nous et qu'on ne bloque pas ceci et par rapport au délai fixé dans les statuts. C'est ce qu'on essaie de faire pour augmenter la participation. Autre chose que j'aimerais dire, en termes de l'interface qu'on demandait entre les statuts et le manuel opérationnel, on aborde une question et pour dire vrai, c'est une question sur la mise en œuvre qui, en fait, devient une question de politique. Donc, on essaie de voir que lorsque une situation se présente et surtout pour les nouveaux GTLD, quelles directives nous donnons au personnel pour que la question soit adressée à eux et que est-ce qu'ils le rendent. On revient et est-ce que c'est un problème de mise en place ou bien de politique, mais tout cela, c'est très difficile de modifier les statuts. On doit les suivre très de près et ensuite peut-être on va les mettre dans le manuel opérationnel. Donc je pense que c'est une voie à suivre. Merci. Alex. Et je dirais que en ce qui concerne la participation du public, et je vais passer à James, nous avons également un rapport publié sur le outreach global et cela va aborder certaines questions également. Je crois que la période de commentaires est similaire et qui devrait se terminer le 1er avril, peut-être un peu plus longue. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait passer en revue pour augmenter la participation du public. On a également quelques recommandations sur la fournition de traduction dans chacune des 5 langues ICANN. Donc, ça devrait nous aider également. Donc, James, je ne sais pas. James, juste Global Outreach, c'est le 10 avril. Ça termine le 10 avril. Ne vous éloignez pas trop, à moins si j'ai fait une erreur, mais je crois qu'Alex et James ont dit la plupart de ce que je voulais dire, sauf quelque chose. C'est tout à fait vrai. Dans notre expérience avec le PDP, il y avait 2-3 périodes de commentaires qui étaient, se suivaient les unes après les autres de manière très rapprochée. Il n'y avait pas vraiment de choses importantes qui se passaient entre les trois pour fournir quelque chose à la commentaire, pour qu'ils pourraient l'utiliser pour les commentaires. Donc, on voulait que ce soit facultatif. Pour revenir à la question de... Maintenant, on a la fatigue des bénévoles. On ne veut pas tout simplement inonder les gens avec des périodes de commentaires, mais avec pour des petits changements. Mais et c'est une question de... C'est pas très pratique. ICANN, les volontaires de ICANN, c'est limité par des délais. Donc, s'il y a 30, 60 ou 90 de délais, on a les commentaires au dernier jour de cette période. Donc, c'était question de... le côté pratique et combien de temps on veut que cette période de silence soit alors que tous les commentaires vont arriver au dernier jour. Donc, une dernière question pour la participation communautaire en général. Et cela concerne ICANN bien au-delà de cette réforme de PDP, mais dans différents secteurs. Regardez la section 3 des recommandations de l'équipe sur la transparence au board ICANN avec Cheryl Langdon Orr qui ont travaillé là-dessus pour aider à évaluer et à élaborer des recommandations sur la manière d'améliorer l'outreach à la communauté et en améliorant les langues offertes à la communauté. Merci, James. Ricky, si je peux faire un commentaire de clarification sur le rapport du personnel au board. On a l'impression que ce sont des rapports initiés par le personnel, mais ils sont requis par le board et c'est pas nous qui les décidons de les faire, mais les recommandations ici se rapportent au rapport PDP au board. Nous avons d'autres rapports, pas seulement ceci, et je voulais juste clarifier ce point. Merci, Brick. Marika. Donc, ce que Marika a dit, c'est important. Cela ne s'applique que pour pas seulement au PDP, mais il y a d'autres activités que le Conseil entreprend qui ne portent pas sur l'élaboration de pratiques, mais qui sont de nature administrative ou qui vont en dehors de l'activité GNSO, par exemple, les groupes. L'ensemble des groupes qui ne passent pas par ce type de processus. Donc, la période de commentaires pour terminer, pour clore, nous arrivons à la fin. La période va jusqu'au 1er avril. On va revoir les commentaires et avec un peu de chance, nous allons actualiser le rapport pour mettre à jour les commentaires et soumettre le rapport final. Et en mai, et avec un peu de chance, en juin, on va commencer à travailler sur la mise en œuvre. Donc, tel est notre objectif. Et encore une fois, envoyez vos commentaires pour davantage d'informations. Diapositives sont disponibles. Vous pouvez avoir ces liens pour les rapports finaux et pour un forum de commentaires publics et un espace de travail pour nous, réunions, nos transcripts. Si vous voulez lire tout cela, je ne peux pas imaginer pourquoi, mais si vous le désirez, ils sont tous affichés. Nous sommes très ouverts et transparents. Donc, je crois que est-ce qu'il y a une dernière question? Bien, merci tout le monde de votre participation. C'est un sujet très important pour beaucoup d'entre la communauté. C'est assez complexe, je sais, mystérieux, c'est très difficile à digérer parfois, mais encore une fois, c'est très important. Et en fin de compte, c'est le cœur de l'activité d'ICANN. Donc, merci à tout le monde. Est-ce que vous avez des commentaires, les derniers commentaires? Non? Merci tout le monde.